Au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 27, versets 1 à 38. La lecture sera longue, mais elle est importante. Je vais parler très courtement et puis nous allons nous séparer en ce dimanche matin. Actes 27, 1 à 38. Vous avez certainement reçu le feuillet où se trouvent les communiqués et les programmes de l'Église, mais vous avez aussi certainement remarqué qu'il y a un espace réservé pour le thème. Je me suis rendu compte que généralement le dimanche, on trouve déjà le thème écrit sur ces papiers-là, mais en ce dimanche matin, j'ai complètement changé ce que j'allais dire. Alors, le petit thème, vous m'excuserez ce matin parce que ce thème est un peu kilométrique, mais je n'ai pas su vraiment le rendre court, mais le grand thème que j'aimerais nous partager ce dimanche matin, je l'ai intitulé « quatre encres à jeter dans la mer pour stabiliser le navire dans une période de tempête ». Quatre ancres à jeter dans la mer pour stabiliser le navire dans une période de tempête. Alors, rendez-moi un service. Je sais qu'il y a deux façons d'écrire ancre, deux significations différentes. L'ancre dont je parle, ce n'est pas avec un E, mais avec un A au début. Quatre ancres à jeter dans la mer pour stabiliser le navire dans une période de tempête. Je vais le répéter une dernière fois, peut-être pour la technique. Quatre ancres à jeter dans la mer pour stabiliser le navire dans une période de tempête. Actes chapitre 27, verset 1. La parole de Dieu déclare, « Lorsqu'il a été décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on a remis Paul et quelques autres prisonniers à un centurion nommé Julius de la cohorte Auguste. » Acte 27, verset 2. « Monté sur un bateau d'Adramite en partance pour les côtes de l'Asie, nous avons gagné le large. » Avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon, Julius, qui traitait Paul avec humanité, lui a permis d'aller chez ses amis pour bénéficier de leurs soins. Parti de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous avons débarqué à Myra, en Lycie. Là, le centurion a trouvé un bateau d'Alexandrie à destination de l'Italie et il nous y a fait monter. Pendant bien des jours, nous avons lentement, nous avons en peine les parages de Cnide et comme le vent ne nous permettait pas d'aller, nous avons longé la crête en doublant Salmonée. En abordant à Grèce, nous sommes arrivés en un lieu appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Comme beaucoup de temps s'était écoulé que la navigation devenait dangereuse, le jeûne était déjà passé. Paul les avertissait, « Mes amis, je vois que la navigation ne se fait en péril et sous de dommages, non seulement pour prison et pour le bateau, pour nous-mêmes. » Le centurion se fiait au tir et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Comme le était mal à l'hivernage, la majorité décida de remettre la voile pour tâcher d'atteindre Phénix, un port de Crète, tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'était levé. Pensant être en mesure d'exécuter leur projet, ils ont levé l'ancre et se sont mis à longer de près la crête. Mais peu après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Euraquilon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous nous sommes laissés porter à la dérive. Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Koda, nous avons réussi à grand-peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, ils se sont servis des moyens de secours pour ceinturer le bateau. Et de crainte d'échouer sur la Sirte, ils ont descendu l'ancre flottante, continuant à la dérive. Comme nous étions fortement secoués par la tempête, ils se sont débarrassés le lendemain d'une partie de la cargaison. Le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Ni le soleil, ni les étoiles n'avaient paru pendant plusieurs jours. Et la tempête restait si forte que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés. Il n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, vous auriez dû m'écouter et ne pas partir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, mais seulement le bateau. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit, « N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une certaine île. » C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand les matelots, vers le milieu de la nuit, ont soupçonné l'approche d'une terre. Ils ont jeté la sonde et trouvé 20 brasses. Après avoir couvert une courte distance, ils l'ont jeté à nouveau et trouvé 15 brasses. Craignant d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres. Ils ont jeté 4 ancres de la poupe en souhaitant que le jour se lève. Mais comme les matelots cherchaient à s'enfuir du bateau et faisaient descendre la chaloupe à la mer pour, sous prétexte d'aller depuis la proue fixée plus loin des ancres, Paul a dit aux centurions et aux soldats, « Si ces hommes ne demeurent pas dans le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordes de la chaloupe et l'ont laissé tomber. En attendant que le jour se lève, Paul a invité tout le monde à prendre de la nourriture en disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous serez à jeun et que vous restez à jeun sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car il y va de votre salut. Aucun d'entre vous ne perdra un seul cheveu de sa tête. » Après avoir dit cela, il a pris du pain. Il a rendu grâce à Dieu devant tous et il a rompu et s'est mis à manger. Alors reprenons courage, tous ont pris de la nourriture. Nous étions dans le bateau, 276 personnes en tout. Quand tous ont eu assez mangé, ils ont allégé le bateau en jetant le blé dans la mer. Amen. 4 ancres à jeter pour stabiliser le navire dans une période de tempête. Tiré particulièrement du verset 29, craignant d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres. Nous allons y revenir. Laissez-moi faire un tout petit peu d'introduction. Frères et sœurs, que nous le voulions ou pas, il y aura toujours dans nos vies des saisons de tempête. Tu n'as même pas besoin de prier pour cela. Dieu s'en occupera. Que nous le voulions ou pas, il arrivera toujours dans nos vies des saisons de tempête. Des saisons où il semble que les flots sont agités. Les tempêtes souffleront toujours de temps en temps. Il arrivera toujours, toujours que nous puissions passer par des saisons de tempête. Il arrivera des moments où l'eau de la mer sera agitée. Le vent se lèvera contre nous. Nous perdrons même peut-être tout espoir de vivre ou de survivre. Le verset 20 nous dit que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés. Il arrivera des moments où tout est secoué aux alentours et tu as comme l'impression que c'est fini, c'en est fini pour toi. Les tempêtes souffleront. Et dans ce texte, cette tempête n'est pas une petite tempête. C'est ce qu'on appelle « the perfect storm », une tempête parfaite, une qui vous prend et qui ne vous laisse pas en vie. Et dans ce texte, nous allons tirer quelque chose d'important pour apprendre comment survivre lorsqu'une tempête souffle. Paul dit, je paraphrase, il dit « La foi de plusieurs a fait naufrage. » Vous avez déjà lu ce texte certainement. Plusieurs a fait naufrage, frères et sœurs. Naufrage que dans une navigation en mer. Ainsi Paul conçoit dans la foi est comparable à un bateau qui navigue sur une mer. Si la foi peut faire naufrage, c'est-à-dire que nous sommes comparativement, ce voyage de foi, ce voyage sur cette terre, c'est comme dans une mer et il arrivera que le vent soit contraire. Il arrivera que les flots puissent frapper contre le bateau. Il arrivera que nous puissions tout perdre. La Bible déclare que de leurs propres mains, ils ont jeté dans l'eau. Perdre tout ce avec quoi nous avons commencé le voyage. Ces choses arriveront dans la vie. Il arrive que les flots de la mer se dressent en ennemis de notre foi. Les tempêtes sont inévitables. Et ces tempêtes peuvent prendre la forme de plusieurs circonstances de la vie. Ces tempêtes peuvent être dues peut prendre la forme de la cause, de la perte d'un être cher. La perte d'un être cher peut te mettre soudain dans une période de tempête. Il y en a qui ont perdu pères et mères, qui sont peut-être morts il y a des années et des années. C'est une tempête qui souffle. Il arrivera toujours dans nos vies des moments de tempête. Tu peux avoir perdu un ami, perdre un frère ou une sœur. Il arrivera toujours dans nos vies ce genre de choses. Ces tempêtes peuvent être secondes. La perte de son boulot ou de son travail. Ce qui te rapportait du grain, un peu de revenu, son unité de production peut se perdre. Ces tempêtes peuvent être une vague de fausses accusations ou de faux témoignages. Il arrivera toujours dans nos vies des périodes de tempête. Ces tempêtes peuvent être quatrièmement une menace de mort par ceux qui ont peut-être plus de pouvoir que toi. Ces tempêtes peuvent être aussi des conséquences de ses propres choix. Mais peu importe la raison des tempêtes, les tempêtes arriveront toujours, même quand Christ est dans le bateau. Il arrivera des moments où ni le soleil, ni les étoiles ne paraîtront dans le ciel de ta vie. La Bible déclare dans ce texte que ni le soleil, ni les étoiles n'avaient paru pendant plusieurs jours. Les marins savent que lorsque vous naviguez comme ça et que c'est la nuit, les étoiles ou encore le soleil servent de boussole ou de direction. Il arrivera des moments où c'est tout noir autour de toi, aucune direction, tu ne sais même pas où aller. Il arrivera des moments où ni le soleil, ni les étoiles ne paraîtront dans le ciel de ta vie. Il arrivera des moments où l'on est tellement à bout que l'on a l'impression qu'il n'y a pas de salut. En ce matin, je viens comme un envoyé en mission spéciale pour dire ceci à quelqu'un. Si tu passes par une période de tempête, ce message peut être curatif. Puisses-tu y trouver sagesse et consolation. Mais si tu passes par une période de calme, ce message peut être préventif. Il est préventif. Puisses-tu t'en servir quand le moment viendra. Certaines tempêtes soufflent dans nos vies, premièrement, à cause de notre propre désobéissance. Paul avait prévenu l'équipage au verset 9 et 10. Paul leur dit, « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Il y a de fois où, si seulement tu avais écouté l'homme de Dieu, tu te serais évité les tempêtes. » Il arrivera dans nos vies où les tempêtes soufflent, mais par notre propre faute, à cause de notre propre désobéissance. Paul avait prévenu l'équipage, ils n'ont pas entendu. Dans Genèse chapitre 11, versets 31 à 32, la Bible déclare ceci, Genèse 11, 31 à 32. La Bible parle de notre père dans la foi, Abraham. Et la Bible dit ceci de lui. Théra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa belle-fille Saraï, femme d'Abraham, son fils. Ils quittèrent ensemble Ur des Chaldées pour se rendre en Canaan. Ils arrivèrent à Haran. Et ils s'y installèrent. Les jours de Théra furent 260, puis Théra mourut à Haran. Dieu apparaît à Abraham, à l'époque. Dieu dit à Abraham d'aller vers le pays qu'il lui montrerait. Il semble qu'en chemin, Abraham s'est rendu compte que le pays en question, c'était Canaan. La Bible déclare au verset 31 qu'ils sont partis, ils ont quitté Ur des Chaldées pour se rendre en Canaan. La destination était que nous arrivions en Canaan. Mais la Bible déclare ceci. Lorsqu'ils sont arrivés à Haran, ils se sont arrêtés et ils se sont installés. Dieu ne leur a jamais demandé de s'arrêter à Haran. Dieu leur a demandé d'aller jusqu'en Canaan. Mais ils arrivent à Haran, ils s'arrêtent et ils s'y installent. Et ils sont partis, ils ont quitté Ur des Chaldées pour se rendre en Canaan. La destination était que nous arrivions en Canaan. Mais la Bible déclare ceci. Lorsqu'ils sont arrivés à Haran, ils se sont arrêtés et ils se sont installés. Dieu ne leur a jamais demandé de s'arrêter à Haran. Dieu leur a demandé d'aller jusqu'en Canaan. Mais ils arrivent à Haran, ils s'arrêtent et ils s'y installent. Et géographiquement, Haran est à mi-distance entre... Haran, c'est la moitié du chemin lorsqu'on quitte Ur des Chaldées et c'est l'autre moitié qui reste pour atteindre Canaan. En d'autres termes, Abraham a parcouru, s'il fallait faire 100 kilomètres, 50 kilomètres à peu près, et il s'est arrêté là, à mi-chemin, à mi-distance. J'aimerais dire à quelqu'un, selon Dieu, aux yeux de Dieu, toute obéissance partielle est une forme de désobéissance. Abraham, ce mi-chemin, au lieu d'arriver juste là, qu'il s'y installe, son père, son neveu, est plusieurs autres personnes qu'il a. Et pour que Dieu le fasse Aaron, jusque à Canaan, mais que son père est mort, une tempête. Et une tempête peut souffler dans ta pour te dire, tu es en train d'obéir par-ci encore, tu es en train de désobéir, continue la marche, je ne t'avais jamais demandé de t'arrêter. Certaines tempêtes soufflent simplement parce que nous désobéissons. Deuxième raison de la cause des tempêtes dans nos vies, certaines tempêtes soufflent dans nos vies parce que nous avons obéi. Si la première est parce que nous avons désobéi, la deuxième raison c'est parce que nous avons obéi. Jésus dit, Marc chapitre 4, verset 36 à 41, « Allons sur l'autre bord. » Comme un test pour leur foi. Jésus se met à dormir dans le bateau. Vous savez, quand Jésus est là, les tempêtes soufflent. Même quand Jésus est là, les tempêtes soufflent. Même quand Christ est là, les tempêtes soufflent. Ils sont en train de partir. Le bateau agité. Et les disciples le réveillent en lui disant, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Pourtant, le maître qui leur avait demandé de partir, je pensais que le chemin se ferait facilement. Je pensais que le vent ne se lèverait pas, que le vent respecterait du moins la présence du maître. Mais la Bible déclare que le vent, c'est la présence du maître. Et pourtant, ils obéissaient à un ordre du maître. Il arrivera de fois où tu obéis à Dieu, tu obéis à Christ, mais les tempêtes se lèvent parce que tu as obéi. Cette fois, ce n'est pas parce que tu as désobéi. Cette fois, c'est parce que tu as obéi. Alors, je ne sais pas dans quel cas tu te trouves, mais alors que je parle, je suis sûr que l'Esprit de Dieu est en train de te dire exactement si tu passes par une tempête, et si jamais c'est dans les deux premiers cas, l'Esprit de Dieu est en train de te dire certainement si c'est à cause d'une obéissance ou d'une désobéissance. Mais quoi qu'il en soit, les tempêtes souffleront. La troisième raison pour laquelle des tempêtes soufflent dans nos vies de foi, c'est parce que il y a Jonas dans le bateau de notre vie. Vous savez, dans l'histoire de Jonas, lorsqu'on se met dans la peau de Jonas, on se rend compte directement que la tempête a soufflé parce que Jonas désobéissait à Dieu. Dieu lui dit d'aller à Ninive, il s'en va à Tarsis. Il arrivera dans nos vies que non seulement la tempête souffle, mais qu'elle s'emmène avec un peu de pluie. Comme ce dimanche matin. Mes frères et sœurs, vous savez, lorsque vous êtes en train de lire la parole de Dieu, il faut non seulement vous mettre à la peau du personnage principal. Je disais que certaines tempêtes souffrent dans nos vies, premièrement à cause de notre désobéissance. De la même manière que Paul avait prévenu l'équipage, mais l'équipage n'avait pas obéi. Ils ont continué quand même le voyage, ils ont préféré écouter d'autres personnes. Deuxièmement, certaines tempêtes soufflent dans nos vies à cause de notre obéissance. Nous sommes peut-être avec le maître sur le même bateau. Il nous dit d'aller de l'autre côté parce que nous avons simplement obéi. Les tempêtes se mettent à souffler. Troisièmement, je disais qu'il y a des tempêtes qui soufflent dans nos vies parce qu'il y a Jonas dans le bateau de notre vie. Et je crois que c'est là que je m'étais arrêté. J'aimerais expliquer quelque chose. Vous savez, pour nous les étudiants de la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous ne mettons pas seulement dans la peau du personnage principal. Généralement, il est plus facile de s'imaginer être Jonas lorsqu'on lit Jonas. Il est plus une histoire sur David de s'imaginer être... Lorsqu'on se met à la peau de Jonas, on se rend compte que la tempête soufflait. Était simplement que Jonas avait désobéi à un ordre du Seigneur. Ainsi, pour Jonas, ça tombe dans le premier pose de notre désobéissance. Mais à la peau de ceux qui étaient avec Jonas dans le bateau, qui n'avaient rien à voir avec Jonas, vous vous rendez compte, c'est simplement parce qu'ils ont eu le malheur de voir Jonas dans leur bateau. Eux ne désobéissaient pas à Dieu. Ils ne savaient pas non plus. Je doute même fort qu'ils connaissaient l'Éternel. Ils faisaient leur comme normalement, mais seulement parce que dans le bateau de leur il y avait un certain Jonas qui était monté. Ils ont soufflé, non à cause d'eux, mais à cause de quelqu'un qu'ils ont sur le même bateau. À cause d'eux, mais à cause d'un certain Jonas qui est monté dans ce bateau. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire en ce dimanche, nous devons apprendre à faire descendre des Jonas et à faire Paul. La Bible déclare dans Actes 27 que Paul, l'ange lui dit, tu ne mourras pas et à cause de toi, tous ceux qui sont dans l'équipage ne mourront pas non plus. Ceux qui étaient dans l'équipage ont sauvé leur vie, non pas à cause d'eux, mais à cause de Paul. Mais dans le temps de Jonas, ceux qui étaient dans l'équipage pouvaient perdre leur vie, non pas à cause d'eux, mais à cause de Jonas. J'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche matin, il faut que tu apprennes à faire descendre des Jonas et à faire monter des Paul dans le bateau de ta vie. Les Paul te sauveront la vie, les Jonas causeront la perte de ta vie, et si pas de ta vie, du moins de tes marchandises importante. Jonas,
Frères et sœurs, la solution avec Jonas, c'est de faire ce qui était fait en ce temps-là. La Bible déclare qu'ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté dans la mer. Il y a des fois, tu te rends compte qu'il y a un Jonas dans ta vie. Mais au lieu de le jeter dans la mer, tu as plus de compassion pour lui que Jésus lui-même qui était mort sur la croix pour lui. J'aimerais te dire en ce matin, prends ce Jonas ou cette Jonasette. Jette-le par-dessus la troisième corde. La simple solution, c'est de prendre Jonas et de le jeter en dehors. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu se soucie aussi de Jonas, c'est aussi une âme. Et il a prévu qu'un poisson puisse venir l'avaler afin qu'il ne meure pas. Mais tu n'es pas censé être le poisson qui l'avale. Ton rôle, c'est de le jeter. Dieu s'occupera de lui. Parce que le problème qui se pose dans ce texte, le poisson a reçu l'ordre d'avaler Jonas. Si tu gardes Jonas sur le bateau de ta vie, le bateau va se briser. Toi et Jonas, vous descendrez dans la mer, mais seul Jonas sera sauvé. Car le poisson a reçu l'ordre d'avaler seulement Jonas, et non toi et Jonas. Alors pour ton salut et pour le salut de Jonas, prends Jonas avec toute la compassion de Christ. Jette-le par-dessus la mer et Dieu s'occupera de Jonas. Dis à ton voisin, Dieu s'occupera de Jonas. Dieu s'occupera de Jonas. Frères et sœurs, revenons un peu à notre texte avant de conclure et de chuter. La Bible déclare que dans ce passage, il y avait une situation un peu chaotique qui se présentait. Un naufrage, comme j'ai dit au départ, une tempête parfaite. Une tempête parfaite. La Bible déclare qu'un léger vent du sud s'était levé et eux, pensant qu'ils étaient en mesure d'exécuter leur projet, ils ont levé l'ancre, ils ont levé. Au lieu de jeter, ils ont levé. Généralement à deux pattes, formant bec. Relié à un câble ou à une chaîne et servant à immobiliser un navire en s'accrochant au fond de l'eau. C'est ça le rôle d'une ancre. Le but de jeter les ancres, c'est de donner une stabilité au navire en plein milieu d'une tempête. Lorsqu'on jette les ancres, généralement, on les jette pas n'importe où parce que si on les jette seulement n'importe où, il se pourrait que en dessous du navire, c'est-à-dire dans l'eau, il n'y ait ni des roches ni du sable. Si on le jette alors qu'il n'y a que de l'eau, l'ancre ne sert à rien. Alors on attend, et la Bible déclare qu'ils se sont rendus compte qu'ils approchaient un territoire sablonneux en dessous. Il y avait du sable. Alors là, ils jetèrent des ancres. Généralement, on les jette pour que les ancres s'enfoncent sur du sable. Et ça stabilise le navire. Malgré que le vent continuera à souffler, la tempête continuera à s'agiter, mais le navire deviendra un peu plus stable à cause des ancres. Et généralement aussi, on les jetait si on approchait un territoire assez rocailleux, où on se rendait compte qu'il y a des pierres ou des rocs, des grands rocs en dessous. Là, on jetait des ancres pour que ça s'accroche sur un roc et que ça stabilise le navire. Frères et sœurs, des fois dans nos vies, on a besoin de jeter des ancres parce que ça bouge de partout. On a besoin de jeter des ancres pour trouver une certaine stabilité. On a besoin de jeter des ancres dans la mer pour que nous ne puissions pas être emportés, que nous ne puissions pas mourir. On a besoin de jeter, la Bible déclare, ils jetèrent quatre ancres. Et sur base de ce texte, nous allons nous servir de cela pour voir les quatre ancres importantes, spiritualiser cela un tout petit peu, à jeter dans la mer pour stabiliser le navire quand rien ne va. Y a-t-il quelqu'un qui me suit en ce dimanche matin? Quatre ancres importantes, frères et sœurs. Quatre ancres importantes. La première des ancres se trouve au verset 35. Après avoir dit cela, Paul a pris du pain. Il a rendu grâce, puis il a rompu et s'est mis à manger. Lorsque vous lisez cela, vous ne vous rendez peut-être pas un peu compte de comment les choses se sont faites. J'aimerais que vous gardiez en tête, tout est en train d'être agité. Le soufflet, ça ne va vraiment pas. Et il y a des... Mais alors que le bateau s'agite, Paul prend du pain. Et il lève les mains, il rase à Dieu. Il rend à Dieu. Alors que le bateau s'agite, j'imaginais que sa voix même n'était pas aussi d'habitude. Peut-être qu'elle tremble. Je te bénis pour ce que j'ai. Je peux imaginer Paul le faisait avec beaucoup de difficultés. Parce que le vent s'agite, le bateau, et Paul se lève et il rend grâce à Dieu. Frères et sœurs, l'ancre à jeter, quand tu passes, c'est une situation difficile, c'est l'ancre des actions de grâce. Malgré la situation que tu passes, ne manque jamais grâce à Dieu. La Bible déclare qu'ils avaient peur de perdre leur vie. Ils avaient même jeté toute leur nourriture, la majeure partie de leur nourriture dans la mer. Ils avaient tout perdu. J'imagine Paul se promener peut-être avec des parchemins, peut-être avec si c'était en termes actuels, sa petite tablette où il y avait des prédications importantes pour Rome. Ils se promenaient peut-être avec beaucoup d'autres choses qu'ils avaient emmenées pour aller de l'autre côté. La Bible déclare qu'ils avaient jeté une partie de leur cargaison dans la mer. Mais malgré cela, Paul se lève et rend grâce à Dieu pour le pain. Il se lève et rend grâce à Dieu pour le pain. Le pain peut sembler en ce moment, mais Paul rend grâce à Dieu pour le peu qui est resté. Et il oublie de regarder au beaucoup qui a été jeté dans la mer. Je ne sais pas combien tu as perdu. Mais bien de fois, nous ne rendons pas grâce à Dieu comme il faut. Parce que nous regardons à ce que nous avons perdu. Au lieu de regarder à ce qui est resté. Frères et sœurs, prends le petit pain, lève-le vers le ciel et bénis le nom du Seigneur, ne serait-ce que pour le pain. Il rendit grâce à Dieu. Il rendit grâce à Dieu. Et durant toute cette semaine, Dieu nous a martelé là-dessus. Savoir lui rendre grâce même quand rien ne va. Il nous a parlé mercredi des pierres vivantes et le pasteur est revenu jeudi pour nous parler de Jean à Patmos. Chaque matin, qui louait le Seigneur et souvent avec le psaume 23. Malgré qu'il recevait des coups de fouet, il rendait grâce à Dieu pour le souffle. Il rendait grâce à Dieu pour tous les bienfaits que Dieu lui accordait. Oui, frère, à nous les grâces, mais à Dieu les actions de grâce. Il faut que nous apprenions, peu importe ce par quoi nous passons, à toujours rendre grâce à Dieu. Et je vous assure, c'est une ancre qui stabilise le navire. Il rendit grâce à Dieu malgré ce par quoi il était en train de passer. La Bible déclare dans Actes chapitre 16, verset 26, que Paul et Silas ont rendu des actions de grâce à Dieu, des louanges à Dieu, malgré qu'ils étaient en prison, peut-être liés des chaînes, peut-être même de fois tabassés, et qu'ils ne mangeaient pas bien, j'imagine, mais ils rendaient des actions de grâce à Dieu. Et celui-ci s'est occupé de leur situation. La Bible déclare dans Actes 16, 26, qu'en cette nuit-là, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Lorsque tu rends grâce à Dieu malgré la tempête qu'il y a dans ta vie, il fait trois choses. Les fondations s'ébranlent, les portes s'ouvrent et les liens se détachent. En ce dimanche matin, je prie dans la vie de quelqu'un, les fondations s'ébranlent, que les portes s'ouvrent. Il y a une porte qui était fermée, je prie que ça s'ouvre. Et je prie en ce dimanche matin pour la vie de quelqu'un, que les liens puissent se détacher. Les fondations se sont ébranlées. Les portes se sont ouvertes et les liens se sont détachés. Parce que Paul et Silas célébraient Jésus malgré leur tempête. Ils rendaient des louanges à Dieu, des actions de grâce à Dieu malgré ce par quoi ils passaient. Frères et sœurs, Jésus est le roc. Il est la fondation sur laquelle nous sommes bâtis. Lorsque tu loues la fondation, les fondations s'ébranlent. Jésus est la porte des brebis par laquelle nous devons passer pour atteindre le Père. Lorsque tu célèbres la porte, les portes s'ouvrent. Jésus est le lien qui rattache l'humain au divin. Lorsque tu célèbres le lien, les liens se détachent. Je prie en ce dimanche matin que notre fondation s'occupe des fondations, que notre porte s'occupe des portes et que le lien qui nous unit à Dieu s'occupe de tous les liens qui nous maintiennent captifs dans ce monde. Puisqu'il louait le Seigneur, les fondations furent ébranlées, les portes s'ouvrirent et les liens se détachèrent. La deuxième des choses, la deuxième ancre à jeter dans la mer pour stabiliser le navire dans une période de tempête, se trouve au verset 23 à 26. La Bible déclare, en effet, c'est Paul qui parle, il dit, en effet, un ange de Dieu, du Dieu auquel j'appartiens et que je sers. J'aimerais m'arrêter là, juste ouvrir une grande parenthèse pour dire, il dit, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers. Si tu ne lui appartiens pas, le service ne sert à rien. Il dit, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers. S'est présenté à moi cette nuit et m'a dit, n'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une certaine île. La deuxième ancre à jeter pour stabiliser le navire dans une période de tempête tirée de ce texte, c'est l'ancre des souvenirs des promesses. L'ancre des souvenirs des promesses. Qu'est-ce qu'il y a avant d'aller de l'autre côté? Dieu avait dit à l'autre. Alors même s'agite, souviens-toi qu'il avait dit que nous atteindrions l'autre bord. A le courage dans son cœur et il dit aussi, le problème, vous agissez parce que vous n'avez pas de révélation. Moi, je ne m'agite pas, je suis assez calme. Parce que j'ai eu la révélation d'un ange de l'Éternel qui m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, tu vas atteindre Rome. À ce que je sache, Rome, ce n'est pas là où je suis maintenant. Rome, c'est encore devant. Alors, les flots peuvent s'agiter. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit, j'irai de l'autre côté. Il arrive de fois dans ta vie, dans ton commerce, dans ton foyer, qu'il arrive que des flots puissent se lever. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit au départ. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu écris cela dans un carnet, ouvre ce carnet, commence à lire. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit que ce commerce porterait de fruits. Dieu avait dit que ce commerce ferait en sorte que tu deviennes millionnaire. Alors tu n'as pas encore atteint cela. Même si ça commence à s'agiter, reste confiant en Dieu. Souviens-toi de ses promesses. Et je t'assure, c'est la deuxième ancre à jeter dans la mer pour stabiliser le navire dans une période de tempête. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Ouvre la parole de Dieu, commence à réciter ses promesses. Lorsqu'il semble que les vents qui soufflent, les flots qui sont en train de te battre, sont les flots de la maladie. Ouvre la parole de Dieu dans le passage qui dit « Je vous guérirai de vos maladies ». Ouvre la Bible lorsque ce cancer commence à venir pour lui dire que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Et n'oublie pas que toute tempête qui se lève, ce n'est juste que pour te donner une nouvelle révélation du Dieu que tu sers. C'est juste pour te donner une nouvelle révélation du Dieu que tu sers. Vous vous rendrez compte, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, chaque révélation de Dieu a été précédée d'un moment de crise. Chaque révélation de Dieu, ou encore la plupart des révélations de Dieu, ont été précédées par un moment de crise. Lorsque le peuple était battu par ceci, cela, alors Dieu se révélait d'une certaine façon. Il t'arrive de vivre que de l'injustice autour de toi, mais c'est pour que tu te rendes compte que le Dieu qui te délivrera de ça s'appelle le Dieu juste. C'est pourquoi Paul dit, même dans nos afflictions, nous débordons en joie. Parce que nos afflictions sont un moyen pour nous de mieux connaître notre Dieu. Quelqu'un est-il en train de me comprendre? La deuxième ancre à jeter pour stabiliser le navire, c'est l'ancre des souvenirs, des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Deux fois nous oublions, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ou encore, d'où Dieu t'a déjà tiré? Souviens-toi de ces choses et sache que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite. Tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Dis à ton voisin, tu ne vas pas t'arrêter en chemin. La troisième ancre importante, et ça j'aimerais juste parler à une catégorie de personnes, je sais que ça ne va peut-être pas toucher tout le monde, mais la troisième ancre importante que nous tirons tout au long de ce texte, nous nous rendons compte, pour stabiliser dans une période de tempête, l'ancre du bon leadership. Leadership comme leader. La plupart de ces personnes ont retrouvé réconfort à cause de l'exemple que Paul montrait. Frères et sœurs, le vrai test du leadership, ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Un bon leader est celui qui sait redonner confiance à ses troupes dans une période de crise. Les vrais leaders, on les reconnaît non pas en temps de bonheur ou de gaieté, mais d'abord en temps de crise. Les vrais leaders. Et le temps de crise, c'est là, c'est un temps révélateur du vrai leader qui est en toi ou qui est en moi. J'aimerais parler de ça un peu très rapidement. En temps de crise, les titres ne servent plus à rien. Vous savez, dans ce bateau, Paul n'était pas censé être le leader. Si vous lisez bien, Paul était un prisonnier. Il y avait un capitaine, il y avait un officier. Le capitaine qui conduisait le navire, il y avait un officier à qui on avait donné Paul pour qu'il prenne soin de lui, afin qu'il atteigne Rome. Paul était là comme un prisonnier. Je veux le dire dans un terme de leadership en disant que Paul était là comme un suiveur. Il n'était pas là comme d'abord un leader. Il y avait des gens qui avaient des titres et même des positions dans ce navire, dans ce bateau-là. Mais Paul n'en avait pas. Paul était le prisonnier. Mes frères et sœurs, en temps de crise, les titres ne servent plus à rien. Ce sont les valeurs intrinsèques du leadership qui importent. Alors que la tempête soufflait, tout le monde pensait que ah, c'est fini. C'est là que le vrai leader s'est levé, Paul. Et il dit, n'ayez pas peur, nous atteindrons Rome. N'ayez pas peur, il s'agit de nous atteindre en Rome. Et la Bible déclare même que ces gens-là, la plupart, j'imagine, ne connaissaient pas Dieu. Lorsque Paul a pris le pain, il a levé, il a rendu grâce, puis il a commencé à manger. La Bible déclare, et eux tous ont aussi commencé à manger, repris espoir à cause de l'exemple. Frères et sœurs, lorsque dans nos sociétés, lorsque rien ne va dans notre pays, nous avons besoin d'un leader efficace. Lorsque rien ne va dans nos églises, on a besoin des leaders efficaces. C'est là que de suivre quelqu'un qui montre l'exemple, malgré que tout va mal. Lorsque la mort frappe dans la famille, il faut que le père puisse redonner confiance aux enfants afin qu'ils continuent la marche. Il m'est arrivé de fois de passer par des moments très difficiles, même au niveau familial. Mais pour le leader de père que j'avais ou que j'ai, il a su nous redonner confiance afin d'avancer encore. Le leader de crise, c'est très important. Lorsque nous passons par une crise, peu importe la nature de cette crise, lorsqu'il y a des combats à gauche, besoin qu'un leader levait pour dire, nous allons, nous sommes ensemble, l'encre du leadership. Malheureusement, bien dans nos pays, cela manque. Rien, mais la dernière des anges a jeté dans la mer pour stabiliser le navire d'une période de... Et là, j'aimerais parler particulièrement, non pas à une personne, mais à un groupe de personnes. Vous formez un groupe, vous êtes peut-être dans une même église. Vous êtes peut-être dans un même boulot. Vous travaillez ensemble quelque part dans une boîte, dans une même boîte. Vous êtes peut-être dans un même ministère. Il y a des tempêtes qui soufflent dans ta vie individuellement, mais il y a des tempêtes qui touchent à tout le groupe. La quatrième ancre à jeter dans la mer pour stabiliser le navire. Nous la tirons du verset 31 à 32. Paul dit... Commençons par le verset 30. Mais comme les matelots cherchaient à s'enfuir, ils cherchaient à s'enfuir du bateau, et faisaient descendre la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller depuis la proue fixée plus loin les ancres, Paul a dit aux centurions et aux soldats, écoutez bien, si ces hommes ne demeurent pas dans le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors les soldats ont coupé les cordes de la chaloupe et l'ont laissé tomber. Si ces hommes qui essayent de s'enfuir ne demeurent pas dans le bateau, personne ne sera sauvé. La quatrième ancre à jeter dans la mer lorsque rien ne va, c'est l'ancre de l'unité. Lorsque ça souffle sur Philadelphie, nous avons besoin d'être unis. Lorsque ça souffle sur le Congo, nous avons besoin d'être unis. Vous savez, certains pays qui veulent nous diviser savent très bien que lorsqu'un peuple est uni malgré le temps de crise, ce peuple est fort. Alors ils nous emmènent des théories bizarres, clivage est, clivage ouest, le tout pour simplement nous diviser. Mais la quatrième ancre à jeter pour stabiliser le navire quand rien ne va, c'est de rester unis. C'est de rester unis. Quelqu'un est-il en train de me comprendre en ce dimanche matin? C'est de rester unis. En temps de crise, nous avons tendance, frères et sœurs, à faire comme certains marins dans ce bateau. Nous avons tendance, en temps de crise, à faire comme les matelots qui cherchaient à s'enfuir. La Bible déclare, ils cherchaient à s'enfuir. En lingala, on dit, moanana, moana, bendana. Chacun, il dit, oh, tout, rien ne va plus, alors... Tikana ben dans la langue déjà heureux. Tikana kenara Paul dit si il s'échappe, personne ne sera sauvé. Si vous voulez bien faire face à une crise, restez unis. Restez ensemble. La quatrième ancre à jeter pour stabiliser le navire dans une période de tempête, c'est l'ancre de l'unité. Dis à ton voisin, l'unité. Nous avons tendance à nous désolidariser du groupe quand rien ne va. Nous avons tendance à tirer le drap de son côté puis à partir. Mais lorsqu'on reste unis, on fait face à tout combat et on ne sera jamais atteint. Jamais, jamais on a atteint. On a tendance à demander rapidement le divorce au moindre coup de vent. On a tendance à fuir l'église au moindre coup de tempête. Mais Paul dit que la solution, c'est de rester unis. C'est pourquoi j'aime le maître dans Jean chapitre 17 qui prie et il prie particulièrement pour l'unité. Il dit, Père, je ne te demande pas que tu puisses les arracher du monde, je te demande que tu puisses les préserver du mal. Mais puis il dit, je prie qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Et frères et sœurs, il est clair qu'il ne peut pas y avoir d'unité là où il n'y a pas d'amour. Je prie qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Je prie qu'ils soient unis comme toi et moi, nous sommes unis. Lorsqu'ils sont unis, malgré tout vent qui peut souffler, ils ne seront jamais atteints. Et ils ne feront jamais naufrage. Je prie qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Dans Psaume 133, la Bible nous parle des bénéfices de l'unité. L'un des bénéfices merveilleux de l'unité. La Bible déclare, il est doux et il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Mais j'aimerais dire particulièrement le verset 3. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Il commence par dire que ces choses arrivent lorsque les frères sont unis ensemble. Lorsque les frères sont unis ensemble, l'une des choses qui arrive, c'est que c'est comme la rosée qui descend sur Sion. La rosée de l'Hermon, simplement parce qu'elle descend sur l'Hermon d'habitude. Et parce qu'elle porte même le nom de l'Hermon, la rosée de l'Hermon. Mais la Bible dit qu'on est unis ensemble, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui au lieu de descendre sur l'Hermon, descend sur Sion. Unité, il y a un transfert de potentiel, il y a un transfert de ces choses-là. Lorsqu'unité, le frère qui est fort peut te soutenir, toi qui es faible, et ensemble vous avancez, car c'est la rosée de l'Hermon qui descend sur Sion. Si je vais le mettre sans mieux comprendre cela, c'est comme le pasteur à Toms qui commence à descendre sur Ken, parce que simplement ils sont unis ensemble. Quelqu'un est-il en train de comprendre ça? C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur Sion. Aux États-Unis, dont j'ai oublié le nom, il y a un... Ce groupe d'arbres, leurs branches se tiennent, ça se lie. Un peu comme s'ils étaient unis. C'est dans une forêt. Et dans cette forêt, il y a beaucoup de coups de vent. Les fleurs s'agitent, les feuilles s'agitent. Il y a beaucoup de coups de vent qui arrivent dans cette forêt. Et ces arbres, certaines sont là depuis des centaines, des années. Même leurs racines, pour certaines, ont pourri. Et normalement, au moindre coup de vent, ces arbres devraient tomber. Mais ces arbres se tiennent tellement fort que même ceux dont les racines sont pourries ne tombent pas depuis plus de 100 ans, depuis plus de 200 ans, à cause de l'unité des arbres. Frères et sœurs, lorsqu'on est unis, les faibles sont soutenus par les forts. Et nous tenons fort, nous tenons debout, même quand rien ne va. Il peut y arriver comme un certain arbre, tu vois que tes racines sont peut-être déjà en train de pourrir. Mais les frères te disent, je ne te laisserai pas tomber. Tu ne resteras pas en chemin. Nous irons ensemble jusqu'à atteindre notre Rome. Et c'est là que les miracles se passent. 4 ancres à jeter pour stabiliser le navire dans une période de tempête. Ce matin, j'aimerais prier pour quelqu'un.